Comment ça va? Amen, amen, amen. Moi, ben, comme c'est la tradition l'été, ben hier, mon ordinateur a planté. Et puis, je pense que c'était son dernier souffle hier soir. Mon PC, oui, mon PC. Mais il faut dire que, je sais que c'est un PC, là, mais il a quand même survécu. J'ai lu en 2016, il a survécu à un accident de voiture où est-ce qu'il a volé. Julie a d'ailleurs fait le catcheur dans l'auto. 2010 que je l'ai eu, ça fait 6 ans. Il a survécu à un accident de voiture où est-ce qu'on a failli tomber dans la mer de 30 pieds. Je l'ai attrapé comme ça. Il a survécu aux routes de la Côte-Nord qui sont un chantier presque perpétuel. Et puis donc, tout compte fait, je dois dire que ça a été un ordinateur fidèle. Sauf que j'avais préparé mon message hier matin sur mon ordinateur et puis bon ben le message a comme pris le bord avec l'ordinateur, mais c'est pas grave, gloire à Dieu. Ça m'a permis de réfléchir et de refaire quelque chose. C'est pour ça que vous n'aurez pas de diaporama ce matin. Pourtant, on va avoir une bonne discussion ensemble, un bon temps de prédication, un bon temps de partage. Et puis, j'aimerais continuer sur le thème de mercredi dernier. Je vous encouragerais, si vous n'avez pas écouté le message de mercredi, je vous encouragerais de l'écouter parce qu'on va faire comme une suite de ce qu'on a vu mercredi. Puis mercredi, ce qu'on a vu ensemble, on a vu entre autres que le chrétien a quatre autorités devant lui, quatre sources d'autorité devant lui. On a parlé de l'Écriture, les Écritures, la Bible, qui est ce que la Réforme appelait la sola scriptura, la seule source d'autorité. Ce n'est pas l'unique source d'autorité, mais c'est la seule source d'autorité qui n'est pas assujettie elle-même à une norme. La Bible est au-dessus de toutes les normes. Alors que les autres sources d'autorité dans la vie du croyant, on parle de la tradition, on parle de la raison, on parle de l'expérience, sont les sources d'autorité, des sources de savoir importantes, mais qui sont tous sous la parole de Dieu. Comme ils sont assujettis, ils sont soumis à la parole, et quand la parole va parler sur quelque chose, va déclarer quelque chose, va affirmer quelque chose, bien les autres sources d'autorité vont devoir se taire. Parce qu'ils sont assujettis, ils sont sous la parole de Dieu. Évidemment, quand la parole de Dieu est silencieuse sur quelque chose, bien là, on a notre raison, on a la tradition, la raison, l'expérience, on a différentes choses, un regard critique qu'on peut porter pour essayer d'évaluer ce à quoi on est confronté. Parce que tout n'est pas blanc ou noir. Il y a des zones grises, où est-ce que c'est, il y a du noir mélangé avec du blanc. Il y a aussi des zones neutres, où est-ce que Dieu ne parle pas, et Dieu nous laisse libres. Et la liberté se joue dans cette zone neutre, cette zone où est-ce qu'on est libre d'agir, d'aller acheter, je ne sais pas moi, pain de lait au dépanneur de gauche ou de droite. Donc, le croyant a ses sources d'autorité, ses manières, ses choses à sa disposition. Il y a la parole de Dieu qui est première, qui est primordiale, qui est seule, qui n'a pas elle-même d'autorité sur celle au-dessus d'elle, parce qu'elle est parole de Dieu. Et quand la Bible parle, Dieu parle, et personne n'est au-dessus de Dieu. On est d'accord? Mais on a dit aussi mercredi que le croyant devait interagir avec la culture. Et il y a plusieurs manières dans l'histoire où est-ce que l'Église a comme dit, bien, comment ça se fait, ça, interagir avec la culture? Dans l'histoire, il y en a qui ont dit, ah, la culture environnante, le monde, il n'y a rien de bon dans le monde, alors je vais me retirer du monde. Il y a eu certains ordres monastiques qui se sont retirés du monde. Ils étaient cloîtrés, ils vivaient dans leur petit monde. Parfois, ils allaient témoigner, mais chez eux, c'était un refuge du méchant monde. Il y a aux États-Unis, plus récemment, il y a les Amish, j'en ai parlé mercredi, qui vivent comme à l'époque des premiers arrivants européens en Amérique du Nord. Ils se retirent du monde, ils vivent en communauté, ils vivent à l'extérieur, ils vivent en communication avec le monde, ils vont avoir plus de relations que les monastères pouvaient en avoir, mais ils sont quand même chez eux, ils touchent pas, tu sais, ils essaient de couper le plus possible le lien avec le monde environnant parce que le monde est méchant. Donc, ce lieu-là d'opposition avec le monde, c'est une des façons que le christianisme a dit, ben, la relation que je vais avoir avec le monde. On voit que c'est pas assez négatif comme lien. D'autres ont dit, non. Dieu est incarné dans le monde, Christ est incarné dans le monde, alors tout ce que le monde fait, on peut se l'approprier. C'est comme à l'autre extrême, on comprend? Comme le monde peut... Les gens du monde vont dans les bars, moi je peux aller dans les bars, je peux aller me saouler, je peux faire... Pareil, parce que on est dans le monde, fait qu'on peut agir dans le monde. C'est comme deux extrêmes, on comprend? Je pense que cet aspect-là est pas plus... est loin d'être meilleur que la première. Puis la première n'est pas nécessairement mieux que celle-ci. C'est déjà un pas, là. Okay? Parce qu'il y a quand même une séparation dans disant que le monde, ben, si je me sépare, au moins je ne participe pas au péché du monde. C'est déjà mieux. Mais c'est pas beaucoup mieux. D'autres ont dit, ben, écoute, c'est vrai que Dieu et le monde sont incompatibles, mais le chrétien est obligé de vivre dans les deux parties. Fait qu'on va faire du mieux qu'on peut en étant citoyen de Dieu et citoyen du monde, mais on va vivre dans un paradoxe continuel, dans un conflit, une tension continuelle en essayant de faire du mieux qu'on peut, mais en tension parce que finalement, le monde est incompatible, la culture est incompatible avec Dieu, avec Christ. Ça, c'est une... Donc, le chrétien est toujours en tension. On associe ça, ou en tout cas, ce que je vous dis là, c'est un penseur américain des années 50 qui essaie de faire du sens en énonçant ces cinq positions-là. Un gars qui s'appelle Richard Niebuhr, je pense. Un Américain là qui parlait des cinq façons que le chrétien peut interagir avec la culture. Donc, il y avait en opposition complète, on accepte complètement, on est en conflit, en paradoxe, en tension continuelle parce que le monde puis l'Église sont incompatibles. D'autres ont dit, oui, ben, l'Église est là pour transformer le monde. Parce que le monde n'est pas bon. Il y a comme une incompatibilité quand même entre le monde puis l'Église, puis Dieu. Donc, l'Église est là pour transformer le monde. Donc, on va transformer ça en essayant de le rendre mieux, de mieux en mieux. C'est déjà très bien. Vous avouez que c'est déjà un très bon point. D'autres ont dit, Dieu est souverain sur le monde. Dieu est au-dessus de la culture. Dieu règne et il y a, et puisqu'il règne, il y a dans la culture des très, très bons aspects. Il y a des aspects qui sont incompatibles avec Dieu, mais il y a des aspects qui sont compatibles avec Dieu. Et donc, le chrétien, en bon citoyen, doit profiter de ce qui est bon dans la culture tout en se préservant de ce qui est mauvais dans la culture. Ça, je trouve que c'est encore mieux. Tout en gardant en la tête la deuxième chose, que l'avant-dernière que je vous ai dit, bien, l'Église est quand même là pour transformer la culture. Ce n'est pas incompatible les deux. Niebuhr voyait ça, le théologien, le penseur, je vous parlais, il voyait ça comme deux manières différentes. Moi, je vois ça comme deux manières compatibles ensemble. Dieu, c'est vrai que Dieu est au-dessus de la culture, qu'il y a des choses bonnes dans la culture, qu'il y a des choses pas bonnes dans la culture, et que l'Église est là pour pouvoir transformer la culture. Et c'est notre rôle aussi. Jésus a dit dans Matthieu 5, nous sommes le sel de la terre. On a un rôle à jouer pour préserver, pour modifier. Je disais mercredi soir qu'on a un rôle de thermostat et non pas de thermomètre. Hein? Ce que je disais, la deuxième manière que je vous ai dit tout à l'heure, eux qui participent au monde comme s'il n'y avait pas de différence, ne sont que des thermomètres. Dépendamment, peu importe comment le monde agit, il n'y aura pas de distinction entre eux et le monde. Les autres sont vraiment isolés. La première partie sont vraiment isolés. Ils ont vraiment bien isolé leur maison, mais il n'y a pas de coup, il n'y a pas d'échangeur d'air dans la maison. Il n'y a rien, il n'y a aucun contact avec le monde extérieur, ou le minimum possible. Ça, c'est la première manière que je vous ai dit. Ça aussi, je pense que c'est déficient. Donc, on a les deux dernières que je vous ai dit. Que l'Église peut transformer le monde, où est-ce qu'elle en a besoin, puis que Dieu est au-dessus du monde, il y a des choses bonnes dans le monde aussi, dans la culture environnante. Pourquoi? Ben, parce que l'être humain, qu'est-ce qu'il est l'être humain après? Hein? Il est l'image de Dieu. Il est icône. Ça veut dire que dans l'être humain, il y a un paradoxe, il y a comme quelque chose de bon qui, parce qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais il a perverti ses voies par la chute et il est mis en demeure de suivre ou pas Dieu dans la révélation même naturelle. Parce que Romains chapitre 2 dit quoi? Les païens qui n'ont pas la loi, mais qui font la loi naturellement. Puis on peut comprendre ça même dans le naturellement. Là. Il y en a qui vont traduire dans leur culture. Ils vont naturellement faire ce que prescrit la loi. Ils sont une loi pour eux-mêmes dans leur conscience. Donc, il y a certaines cultures qui sont plus proches, même s'ils n'ont pas connu l'Évangile, qui ont une conscience morale peut-être plus grande que d'autres cultures. Pourtant, Romains chapitre 1 va dire qu'il y en a qui ont connu Dieu, mais qui ont rejeté Dieu, ils ont gardé la vérité captive, puis ils se sont endurcis, se sont empêtrés dans un bourbier de plus en plus profond, puis Dieu les a remis à leur sens réprouvé. Donc, on voit que la culture n'est pas toute belle, la culture n'est pas toute mauvaise. Il y a des aspects dans la culture qui peuvent être très bons, il y a des aspects dans la culture qui peuvent être très mauvais. Il faut avoir un sens critique. Tout le message de mercredi, c'était de dire, bon, on a besoin d'une manière, d'un sens critique à la lumière de l'Écriture, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de ce que Dieu nous a donné en termes de source d'autorité. Premièrement, cette source d'autorité qui n'a aucune source au-dessus d'elle, qui est la parole de Dieu, sola scriptura, les Écritures seules, mais aussi de la tradition, de la raison et de l'expérience. Si tu vois quelque chose qui n'a aucun sens, qui fait aucune une manière de faire qui n'a pas de bon sens, ben, tu es capable de juger en disant « Oui, mais la parole ne dit pas grand-chose là-dessus. » Même parfois, elle ne dit rien là-dessus, mais en réfléchissant à la chose, en pensant, en regardant ce que peut-être des croyants dans les siècles derniers qui ont pu faire face à des affaires comme ça, comment est-ce qu'ils ont réagi, comment est-ce qu'ils ont interagi avec ces choses-là, on peut se faire un sens, on peut prendre des décisions. On ne doit pas juste dire « Ah, tout est méchant, tout est bon. » Il y a quelque part dans le sens. Puis je ne pense pas que non plus qu'on doit toujours vivre en paradoxe en disant « C'est incompatible, mais je suis comme un peu en division de personnalité en disant « Ben écoute, d'un côté, je suis chrétien, de l'autre côté, je suis citoyen, mais je suis toujours en tension avec moi-même. » Je pense qu'il y a une manière de vivre épanouie en tant que citoyen des cieux et citoyen de la terre. En faisant des choix concrets, des choix intelligents, des choix scripturaires, pour que nous, ensemble, on peut dire, ben, hey, voici comment on marche le même pas, puis voici comment est-ce qu'on peut marcher avec sagesse, parce que qu'est-ce que dit la Bible sur la grâce de Dieu dans Tite? Oui. Nous enseigne. Et à vivre dans le siècle présent, avec sagesse, piété et justice, je pense. Hein? C'est le titre 2.11, hein? Ou pas loin de? Je n'avais pas ouvert ma Bible. Imaginez-vous comment ça... Je n'ai pas ma Bible le matin. Je ne sais pas parce que je l'ai mis en revenant de l'église mercredi soir. Puis, mon ordinateur plante. Gloire à Dieu, c'est vraiment béni. Alors, titre 2, je pense c'est verset 11. Oui, elle nous enseigne, verset 12, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, il y a une manière de vivre aujourd'hui, dans le siècle présent, avec la sagesse, avec la justice et avec la piété. Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, il dit, avec les... Comment il dit ça? On va le lire ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 9. À partir du verset 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Et donc, verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. » Mais regardez verset 10, 1, « Frère, je ne veux pas que vous ignorez... » Non, on va aller à la fin du chapitre 10. Verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. » Verset 11.1. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Et voyez-vous ce qui est intéressant ici? Ce qui est intéressant, c'est que Christ s'est incarné. Christ s'est fait homme. Galates 4.4, il est venu sous la, né d'une femme, quand les temps ont été accomplis, il est né d'une femme, né sous la loi, dans une culture donnée. Et Christ faisait la différence, faisait la distinction. Il participait aux événements culturels. Il mangeait de la bouffe culturelle du judaïsme, d'Israël du premier siècle. Pourtant, parfois, il allait participer même à des fêtes qui n'étaient même pas scripturaires, comme le Hanouka. Il allait manger les choses, célébrer la Pâque, tout ça, comme il avait dit. Et avec les modifications qu'il y a eu par le temps, sans aucun problème. Pourtant, quand c'était le temps, il disait non à la culture. Ça, je ne suis pas ça, pharisien. Il n'hésitait pas à critiquer la culture qui était imposée par les pharisiens et les scribes de l'époque, les sadducéens. Il interagissait avec la culture. Il n'hésitait pas à s'incarner dans la culture, à vivre dans la culture, à être dans la culture. Il n'hésitait pas à interagir, voire même à critiquer la culture. Quand il est venu le temps, il a dit, « Hey, payez l'impôt. Payez l'impôt. Il n'y a pas de qui est l'effigie? Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. » Le croyant n'a pas à vivre tout le temps en tension en disant que les deux sont incompatibles. Jésus pouvait vivre parfaitement bien. Et Jésus était sans péché et pourtant il vivait parfaitement bien dans une culture qui pouvait à bien des égards être contre Dieu, mais qui à des égards était aussi pour Dieu. Ou en tout cas, pas contre Dieu. Voyez-vous? Et donc, c'est pour ça que je pense, malgré les cinq façons que je vous ai partagées tout à l'heure, il y en a peut-être une sixième qui est encore plus proche de celle que Dieu prise. Dieu, il n'a pas attendu Christ pour agir dans les cultures. Dans Acte 14, ça dit qu'il n'a jamais laissé les nations sans témoignage de lui-même. Acte 17, il va dire à peu près la même chose. Dans Acte 17, il va dire quand même que tout l'être, l'humanité agit en Dieu. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tu n'as pas attendu l'incarnation pour agir. Il agissait dans le monde. Je me souviens, il y a deux ans, Pasteur, c'est le matin qu'on est allé à Toronto? Ensemble? 2014. En 2014, je me rends avec Pasteur Jean-Sébastien à Toronto et j'y rencontre un homme assez intéressant qui, lui, est un cri. Donc, un autochtone de la nation Cree. Et en discutant avec lui, et comme moi-même, j'ai le privilège de travailler dans un environnement autochtone sur la Côte-Nord, je commence à jaser avec lui, et il dit, « Patrice, tu sais, il dit, Dieu n'est pas débarqué du bateau avec les colons. Dieu était déjà ici, et il travaillait ici parmi les peuples autochtones en Amérique du Nord. Il n'a pas attendu les colons pour commencer à œuvrer en Amérique du Nord. Et je ne sais pas si vous avez eu le privilège, oui, de lire le livre de Don Richardson qui s'intitule « L'éternité dans leur cœur ». Avez-vous déjà lu ça? Je vous le recommande vraiment fortement. Don Richardson, c'est un missionnaire qui a œuvré auprès des peuples autochtones en Nouvelle-Guinée, si je me souviens bien. Et des peuples autochtones qui, eux, étaient... on lui avait dit, lui, quand il était allé, quand il prenait ses cours de missiologie, on lui avait dit dans ses cours d'anthropologie que les peuplades étaient habituellement soit chasseurs de têtes, soit cannibales. C'est ce qu'on lui avait dit. Il arrive là-bas et ils étaient chasseurs de têtes et cannibales. D'ailleurs, un jour, il s'était construit une hutte en hauteur. Parce qu'avec son arrivée, il y avait des médicaments, il y avait différentes choses. Fait que les peuplades, les différentes nations qui étaient rassemblées, ou en tout cas les différents clans plutôt, qui étaient rassemblés, qui étaient en guerre les uns avec les autres, ben, avec l'arrivée du blanc, avec les médicaments, avec les aspects positifs de la culture, pour eux autres, quand il est arrivé, c'est la première fois qu'ils voyaient un blanc, c'est dans les années 60, première fois qu'ils voient un blanc. Là, ils voient les avantages du blanc, fait qu'ils se rassemblent et ils se rapprochent. Ces gens étaient en guerre, fait que des fois, ils se réveillaient au son des flèches qui frappaient la hutte, parce qu'ils se tiraient. Fait que Richardson, à un moment donné, il dit, bon, on va partir. Ils se sont rapprochés avec nous autres, on va s'en aller, parce que sinon, ils vont tous s'entretuer. À un moment donné, il était en train de manger du macaroni, tu sais, puis les gars, ils montaient, regardaient par la fenêtre. Alors finalement, il n'est pas si différent de nous autres, il mange du cerveau. Ils mangeaient du macaroni, puis les autres pensaient que c'était du cerveau qu'ils étaient en train de manger. Hein? Qu'est-ce qu'on mange? Du macaroni, c'est ça? Fait que Don Richardson, lui, il dit ceci. Il dit, dans tout le conflit entre les nations, les Saouis, si je me souviens bien, les Saouis de Nouvelle-Guinée, dans tout ce conflit-là, ils disent, on va s'en aller. Et là, sous le risque, la menace de s'en aller. Et une des valeurs de cette culture-là, quand je disais que dans la culture, il peut y avoir des choses positives, négatives, dans une des valeurs de cette culture-là, c'était la trahison. La trahison était l'une des valeurs les plus élevées dans cette culture-là, parce que ce que tu pouvais faire de leur héros dans toute leur histoire, dans toutes les histoires qu'ils se racontaient aux enfants, quand c'était le temps de raconter des belles histoires. Les héros, c'était les gens qui pouvaient s'allier avec quelqu'un, se faire le meilleur ami possible, le trahir puis le manger. Ça, c'était les héros par excellence. Quand celui qui avait trahi n'avait pas vu ça venir du tout. Ça, c'était vraiment l'idéal. Alors, imaginez-vous, quand il a commencé à annoncer l'Évangile, et puis qu'il a dit que Judas avait trahi le Fils de Dieu, Judas est un saint. Il a trahi le Fils de Dieu lui-même. Extraordinaire, c'est un saint, c'est un héros. Lui, il savait plus comment je fais pour annoncer l'Évangile dans une culture comme ça. Comment je fais pour interagir? Est-ce que j'en m'enfuis? Première façon qu'on a vue. Comment je fais pour dialoguer? Comment je fais pour transformer quand Judas s'est vu comme l'idéal? Alors, à un moment donné, il est découragé. Il dit, je m'en vais. À la menace de son départ, à cause de tous les bienfaits qu'il pouvait quand même apporter, ils ont dit... Non, on va régler ça demain. Là, il dit, comment on va régler ça, tu sais? Fait que là, il voit une femme qui a son petit, puis elle dit, non, je veux pas. Là, le père qui pogne le petit, qui s'en va, qui donne ça à l'autre tribu, l'autre clan. Fait que là, il dit, ils vont-tu le manger? Son père. Là, il est inquiet pour la vie du petit bonhomme. Ils ont dit, non, ça, c'est l'enfant de paix. L'enfant de paix dans notre culture, bien, l'enfant de paix, c'est quand on donne l'enfant de paix, le plus haut crime que tu peux faire, c'est de tuer l'enfant de paix. Et ça, tant que lui va vivre, ça garantit la paix et la sécurité entre les deux clans. C'est l'enfant de paix. Wow! Il a dit Jésus, c'est l'enfant de paix de Dieu et envers les êtres humains. Et Judas a trahi l'enfant de paix. Alors là, de saint, il est devenu à... épouvantable. Il avait tué l'enfant de paix que Dieu avait donné à l'humanité. Et Don Richardson, dans son livre, je vous le recommande, il a écrit « L'éternité dans leur cœur ». Puis si vous voulez lire toute cette histoire-là avec les Saouis, c'est « L'enfant de paix », le nom du livre. À la fin de « L'enfant de paix », Don Richardson va parler de ces analogies rédemptives que Dieu a laissées dans la culture. Et que nous, en tant que croyants, on peut prendre, on peut trouver, on peut glaner pour essayer de justement annoncer créativement l'Évangile dans la culture. Maintenant, Puis dans l'éternité dans leur cœur, le deuxième livre que Richardson a écrit, à travers l'histoire, il donne des exemples de ce genre d'analogie rédemptive que Dieu a laissé. Quand je vous dis que dans Acte 14, dans Acte 17, quand Dieu dit « jamais laissé aucune nation sans témoignage de moi-même », le mot « témoignage » c'est « martyrien », le même mot qui parle des témoins de Jésus. Dieu lui-même se rend témoin pour lui-même dans les nations. Dieu n'a pas attendu l'Église pour agir. Il s'est laissé des traces. Et l'être humain, image de Dieu, peut faire le bien, peut faire des choses épouvantables parce qu'il est séparé de Dieu. C'est sûr que le bien qu'il peut faire naturellement ne va jamais rien ajouter à sa rédemption. Christ est venu pour sa rédemption. Vous comprenez? Mais le fait que Christ ait besoin de venir ne jette pas un discrédit complet sur tout ce qui peut être bien sur la terre. Le fait que les chardons poussent dans un champ n'est pas en train d'enlaidir les roses, les fleurs, la beauté du champ ou la beauté du coucher de soleil. Les résultats de la chute n'enlaidissent pas toutes. Est-ce que vous comprenez? Donc, le croyant et la culture. Comment on va agir? Et on me posait la question sur la musique mercredi soir, pendant le temps de questions-réponses. On me posait différentes questions. Comment est-ce que le croyant doit agir. J'ai expliqué comment la culture était faite d'une vision du monde centrale, une allégeance ultime, quelque chose à laquelle on tient plus que tout. Hein. Vous avez parlé à différentes cultures, différents sens. La culture communiste du 20e siècle, au cœur de la vision du monde communiste, c'était l'athéisme. Il n'y avait pas de Dieu. Et tout découlait de ça. Au cœur du christianisme du Moyen Âge, mais Dieu existait, Dieu était là, Dieu était en contrôle. Au cœur de la vision du monde de l'islam, Dieu est un Dieu qui contrôle tout, mais qui est très capricieux, qui peut décider du jour au lendemain de changer d'idée. Alors, cette vision du monde, au cœur de ça, au cœur d'une culture et cette manière de concevoir la réalité. Y a-tu un Dieu, y a-tu pas Dieu? Est-ce que ça fait du sens, est-ce que ça fait pas de sens? On peut-tu réfléchir? Ensuite, ça a un impact sur les croyances des gens dans une culture. Évidemment, il y a des sous-cultures, il y a des petits groupes, il y a des groupes qui ne sont pas tout à fait dedans. Si vous allez dans la sous-culture Amish en Pennsylvanie, vous n'allez pas retrouver ce que vous trouvez, mettons, dans la culture LGBT de Californie. C'est des cultures qui sont incompatibles tout au cœur même de la grande culture américaine, états-unienne. Il y a des sous-cultures. Mais on voit quand même dans les sous-cultures, peut-être dans la culture générale, quand on regarde grosso modo ce que les gens croient, bien, au cœur de la culture, il y a cette vision du monde qui va avoir un impact sur les croyances. Qu'est-ce que les gens croient sur la réalité? Ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est vrai, ce qui est faux. Qu'est-ce qui leur valeur? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Pour revenir aux États-Unis, dans une grande partie, surtout dans le Sud et certains secteurs, c'est bien d'avoir des guns, puis ils vont encourager les pasteurs d'avoir un gun ouvertement dans les églises. Ailleurs aux États-Unis, plus dans l'Ouest, non, il faut bannir les armes à feu. Il y a comme la culture, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est laid? Il y en a qui vont trouver des centres d'achat en béton, tout carré, avec des chars, puis ça, c'est beau. Il y en a qui vont dire, non, il faut que ça soit la verdure, la nature, ça, c'est beau. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est laid? C'est toute la culture qui va, avec les croyances, les valeurs, les goûts, et ça va produire des choses qu'on va faire, qu'on va ramasser, qu'on va produire, des objets qu'on va créer. Les artefacts que j'appelais mercredi. Ça va produire des styles musicaux. Quand, je ne me souviens pas de son nom, un musicien des années 70, j'oublie son nom, qui croyait que l'univers était le fruit pur du hasard. C'est un musicien, je crois que c'est un pianiste. Et lui, parce que l'univers était le fruit du hasard, pour lui, la plus belle musique était le fruit du hasard. Alors, au hasard, il touchait les pièces. les touches du piano. Et pour lui, ça faisait de la musique qui était en accord avec sa vision du monde. Le hasard. L'art, mon père qui avait étudié sous Polymone Bordua, qui à un moment donné est devenu au centre d'un courant de peintres au Québec qui s'appelait l'automatisme. Et là, tu peignais automatiquement, sans vraiment de t'en faire, de qu'est-ce que tu peignais. Et même à la limite, tu fermais les lumières pour être sûr que tu ne sois pas affecté par. Mon père, à un moment donné, il est sorti de ça, il trouvait ça trop différent de qu'est-ce que lui voyait. Mais c'est des courants qui sont... Et c'est la culture qui fait ça. Comprenez? On ne peut pas dire c'est laid. Pourquoi? Il faut prendre ça. Quand on est allé visiter le musée d'art contemporain, Julie et moi, à Paris, c'est pas très beau, je vais vous le dire. Pour moi, à mon goût, parce que mon père, il pouvait prendre une scène, son autoportrait qui est à la maison chez moi, je lui dis, si tu prends sa photo, tu prends l'autoportrait au pastel qu'il a fait, hey, c'est, les gens pensent, quand ils voient, ils pensent que c'est une photo. Mais c'est un pastel. Alors évidemment, quand je vois des œuvres d'art moderne, où est-ce qu'on dirait qu'il a pris le seau de peinture et il a garoché ça au hasard, c'est la toile. Pour moi, je suis comme, il manque un petit peu de recherche, mettons. Pourtant, ça exprime, et c'est ça l'expressionnisme, on peut dire. Ça va exprimer non pas ce qu'il y a dans la réalité, mais ce qu'il y a au cœur de la personne, ça exprime où est-ce qui est l'artiste. Et c'est très touchant, ces œuvres-là, parce que ça exprime où est l'artiste, pas ce qu'est la réalité. Donc, c'est vraiment, tu prends la culture, là, ce qui est dans comment la culture l'a affecté dans ses tripes, et ça va ressortir dans son œuvre. Comprenez-vous? Quand les artefacts expriment quelque chose. Quand les gars comme le joueur de musique, là, qui arrachait les têtes de chauves-souris. Là. Comment il s'appelait? Là? Ozzy Osbourne. Bon. Quand il crie, puis il déverse sa colère sur ses instruments, puis quand tous ces groupes de musique-là pètent les instruments, déversent l'agressivité, déversent la colère, nous, on est... Comment? Avec des lames de rasoir. Bon. Quand il fait ces choses-là, c'est horrible. C'est horrible, mais réalisez-vous que c'est le fruit d'une culture. C'est le fruit d'une vision du monde, de croyances, de valeurs, de goûts qui sont exprimés dans un art, dans des artefacts pour exprimer quelque chose. C'est un lien direct. Alors nous, on peut dire tout est mauvais, mais je me souviens toujours d'un de mes amis qui, pour lui, écoutait ça religieusement, cette musique-là. C'est un croyant. Demandez-lui, il s'assoit. C'est un grand, grand pianiste, vraiment un virtuose du piano. Puis il se met à me jouer une pièce au piano. C'était magnifique. Il dit, tu sais quoi? Je dis, non, je ne sais pas c'est quoi. Il me dit, c'est telle pièce de Ozzy Osbourne. Mais il n'avait pas joué avec toutes les à côté. Il avait joué avec le piano. Et tu vois comment c'est beau, la musique? C'est pour dire ceci. Lui, quand il écoutait du Ozzy Osbourne, c'est ça qu'il entendait. Bon, moi, c'est vraiment pas ça qu'il entend, là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que est-ce qu'on est là pour dire non, tout est mauvais, tout est mal, ou est-ce qu'on va prendre le temps d'être sérieux? Quand les jeunes, moi, souvent, les jeunes à l'école ou ailleurs vont venir avec dans le temps, c'était les Walkman ou les MP3, après ça, il y a venu toutes sortes d'affaires. Je veux dire, écouter ma pièce de musique. Bien souvent, mes oreilles grichent un peu. Si c'était juste de mon goût, c'est pour ça que j'écouterais. Mais je prends au sérieux ce que le jeune veut me faire écouter. Puis même quand ça trash vraiment, j'écoute et j'essaie d'écouter non seulement ce qui est dit, comment c'est dit, qu'est-ce que est le style musical, parce que le jeune, pour lui, c'est important cette pièce-là. Il veut me communiquer quelque chose assez, d'une manière assez importante, assez pour qu'il dise, écoute-moi, ça c'était beau. Ou c'est, peut-être pas nécessairement beau, mais c'est important pour moi. Okay? Ça dit quelque chose, ça communique quelque chose parce que c'est au cœur d'une culture, vous comprenez? Fait que le croyant qui veut être au sérieux avec son monde autour de lui, qui s'incarne, je ne commencerai pas à trouver Ozzy Osbourne beau, puis que dans mes prédications, on commence à vous lancer des cochons avec des lames de rasoir dedans. Évidemment, non, c'est pas dans la culture, la vision du monde, les croyances, les valeurs, les goûts, ce que ça produit comme comportement, comme émotion, comme artefact. Évidemment. Parce que le christianisme, même s'il va changer avec les siècles, il va être modulé par la culture environnante, c'est pas nécessairement mauvais. Je suis content qu'on s'habille pas comme au premier siècle, ici au Québec, en Amérique du Nord, au 21e siècle. Ça faisait froid des fois, le courant d'air. Hein? Les grandes toges, partir le vent, ça serait pas idéal. Vous comprenez? C'est correct que ça change avec le temps. Ça, on n'a pas besoin de rester dans un moule tant et aussi longtemps que les croyances, les valeurs, les goûts expriment la vision du monde et les autorités qui sont là dans la vie du croyant, l'Écriture seule, premièrement, qui n'a pas d'autorité sur elle-même, puis qui gère les autres autorités, puis qu'on marche selon, dans Matthieu 4:4, selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous comprenez? Et là, on peut arriver dans le monde et incarner. Et parce que là, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Jésus qui œuvrait dans la culture en laissant les traces de lui-même, des fois plus ou moins belles, en parlant des Saouis, une autre culture dans la même île, je ne me souviens plus du nombre de cultures qu'il y avait différentes, mais un moment donné, il y a une nation qui a voulu faire la paix avec une autre nation, et ils ont donné leur enfant de paix, mais eux, ils l'ont mangé, l'enfant de paix. Parce que dans cette culture-là, ils mangeaient l'enfant de paix. Ça garantissait la paix finale entre les deux clans. Je pensais pas que c'est ça que tu allais faire avec mon gars, là. Mais c'était réglé. Fait qu'on voit que des fois, c'est peut-être pas la bonne manière de faire. Là. Dans les cultures, ça change. Il y a des choses qui s'expriment différemment, voyez-vous? Mais on doit pouvoir avoir un regard critique en disant, on ne rejette pas, on écoute. Dans le sens, on ne rejette pas. Dans le sens, on ne s'isole pas, devrais-je dire. Parce qu'on peut rejeter des choses. Mais on ne s'isole pas. Parce qu'on doit dialoguer. On doit communiquer, on doit prêcher l'Évangile, on doit être en mesure d'accepter l'autre. Quand Jésus était dans un bar avec les prostituées, puis les publicains, puis tout ça, là, il était assis avec eux autres. Est-ce qu'il participait avec eux autres dans leur péché? Non, il était sans péché. Mais il était là, il parlait avec eux autres, puis ils écoutaient, et il transformait leur vie, une à une, et eux sortaient de ce milieu-là et adoptaient une nouvelle culture, une nouvelle vision du monde, de nouvelles croyances, de nouvelles valeurs, de nouveaux comportements, de nouvelles actions. Un à un. Donc oui, parfois, il faut critiquer la culture. On n'a pas besoin de tout critiquer. Ça fait très bon. Moi, quand je vois quelque chose de très bon, j'encourage la personne. Qu'il soit chrétien ou pas, j'encourage la personne. Pourquoi? C'est bon. Il y a un père de famille qui est marié, qui prend soin de ses enfants, qu'il soit chrétien ou pas. Hey, tu prends soin de tes enfants, mon chum. Tu veilles à leur bien-être. Tu veilles à eux autres. La mère qui reste à la maison, qui soit chrétienne ou pas, qui est là, qui donnerait sa vie pour ses flots. Hey, gloire à Dieu, il y en a assez de folles qui vont boire leur argent, qui vont laisser leurs petits mourir dans leur urine. Gloire à Dieu pour ta vie, madame. Est-ce que ça va le sauver? Non, ça ne sauve pas ça. On peut-tu encourager ce qui est bon? En disant, hey, gloire à Dieu pour ta vie. Ça, là, cette partie-là de ce qui fait de toi un être humain, l'image de Dieu qui est en toi, tu ne l'as pas rejetée. Tu dis encore, tu vas prendre soin de tes enfants. On encourage ce qui est bon. Dieu voulant, on annonce la parole de Dieu, on donne le conseil de Dieu, on vit dans le siècle présent avec sagesse, piété, justice. On interagit avec sagesse avec les gens autour de nous. Puis on annonce l'Évangile. Vous savez, c'est les quatre mandats de l'Église. Hein? Le premier mandat, le plus important de l'Église, c'est évidemment d'annoncer l'Évangile de la Grande Commission. Mais ce n'est pas le seul mandat. Parce que les croyants sont aussi des êtres humains et ils doivent prendre soin des pauvres. Oui, l'Église doit prendre soin des pauvres, mais en tant qu'être humain, tu dois prendre soin des pauvres. C'est une des raisons que Sodome et Gomorrhe a été jugé et détruite, c'est qu'ils ne prenaient pas soin des pauvres. On voit ça dans Ésaïe. Prendre soin, être le sel de la terre. Évidemment, ça c'est l'Église. Mais évidemment, Dieu va juger les nations en fonction qui ont été de plus en plus loin. Il va déverser un jugement. Il va dire, ma coupe de colère n'est pas encore remplie face aux Cananéens. Quand elle va être remplie, je vais déverser ma colère. Ça veut dire que Dieu va juger. Donc, ils sont redevables de comment ils agissent dans leur culture. Dès la Genèse, Dieu nous dit de l'autre mandat de prendre soin de la nature. On voit ça dans la Genèse, on voit ça dans la loi, on voit dans les proverbes le juste prend soin de ses bêtes. On est mis en demeure de pas détruire ce que Dieu a fait. D'être des gérants de la création, des gens qui vont représenter Dieu, être ambassadeur de Dieu à la culture, aux autres et à la nature. Je suis sûr que si Jésus marchait sa route puis qu'il voyait une fourmi, il ne faisait pas un détour pour aller l'écraser. Hein? Ou s'il voyait un chien, tu donnais un coup de pied au chien. C'était un peu... Non, c'est quoi ça? Je suis sûr que... Au contraire, on voit dans les évangiles, Jésus est allé au désert, il était avec les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages étaient avec lui. Une machine gun pour toutes les tirer. Non, il était là. Il était Dieu sur terre, fait homme, et les anges vont le servir, les bêtes sauvages vont être avec lui. Dieu n'est pas contre l'humanité. Il n'est pas contre la création. Dieu, il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, il dit, Dieu est là, il vous supplie par nous, au monde, supplie le monde par nous, soyez réconciliés avec Dieu. Hey, Dieu supplie le monde. C'est quoi ça? C'est pas le genre de Dieu lointain, distant, qui haït le monde, qui veut rien savoir du monde. Non! C'est un Dieu qui est là et qui veut que le monde soit réconcilié avec lui-même. Et nous, on a un avantage. Parce que si la parole de Dieu, si le monde a la révélation naturelle, puis je l'ai dit mercredi, c'est quand même, quand Dieu se révèle dans la nature, c'est Dieu qui se révèle. Ça veut dire qu'il y a quand même le non-croyant peut avoir un contact avec Dieu. C'est pour ça qu'ils ont connu Dieu dans Romains 1:20, mais ils l'ont rejeté. Connu, ginosko, il y a eu un contact avec Dieu, mais ils l'ont rejeté. C'est une révélation. Mais le croyant, lui, a la révélation spéciale, la parole de Dieu, qui, elle, ne fait pas juste pointer, mettre des panneaux d'affichage qui démontrent la grandeur, l'éternité, la puissance, le caractère de Dieu. C'est écrit en noir et blanc. Ça explique. Ça donne un message. Ça clarifie les choses. Puis le chrétien qui a le Saint-Esprit peut expliquer aux non-croyants, un peu comme Philippe, hein, l'eunuque qui est dans son char, Philippe court après. Comprends-tu ce que tu lis? Non, à moins que quelqu'un me l'explique. Philippe, il embarque puis il explique. Puis la personne, wow, c'est ça. Le rôle de l'Église. On a l'autorité, la Bible, au-dessus de toute autorité qui peut donner du sens à tout le reste. Puis on a un rôle à jouer pour ça. Amen. Seigneur Dieu, tu nous mets en demeure, papa, d'être...